Compositeur aux facettes plurielles, Henri Fourès explore avec une extraordinaire dextérité les chemins de traverse allant de la tradition vocale des troubadours aux élucubrations électroacoustiques, sans oublier le geste instrumental libéré de tout joug esthétique. Fruit de la rencontre avec deux improvisateurs aux univers affirmés, Carlo Rizzo et son tambourin polytimbral, et Benia Tacciari aux cordes vocales, est née Célébration du contre-jour. Bâti sur le principe de la construction en séquence, cet enregistrement développe dans sa continuité une dramaturgie autour des notions très simples de tradition et de modernité. Il ne les mêle pas, ne les oppose pas, mais tente de les lier, de les confronter en explorant dans son déroulement plusieurs traditions de l'écrit et de l'improvisé. Tradition des jeux et des rythmiques de la langue et du chant basque de Benia Tacciari, tradition des tambours sur cadre du sud italien, d'Inde et d'Afrique du Nord, du tambourin polytimbral inventé par Carlo Rizzo, tradition d'une écriture pour le piano. Henri Fourès est l'invité de ce tapage nocturne. Henri Fourès vient de paraître Célébration du contre-jour. Finalement, c'est la deuxième fois que vous célébrez. Je me souviens que le titre de votre opus discographique précédent était également une célébration.
Oui, c'était une célébration de la caresse. Alors ça, c'était un petit hommage à Lévinas père, bien sûr. Et puis le contre-jour, c'est Gegenlicht. Et ça, c'est un petit hommage à Paul Celan, de toute façon. Chacune des pièces de ce CD porte le nom d'un poète ou d'un auteur, d'un écrivain. Et Paul Celan est un des écrivains qui est dans le CD aussi. Alors le contre-jour, c'est à la fois ce qui permet la transparence, c'est aussi ce qui permet l'opacité, et c'est ce qui permet finalement le contrepoint entre l'opacité et la transparence.
Quel est le rôle de la poésie dans votre écriture ?
Presque toujours, c'est un déclencheur, c'est-à-dire la lecture d'un texte, quel qu'il soit poétique, que ce soit un essai, que ce soit tout simplement un article, éveille un désir d'utiliser cette sensation première de la lecture pour nourrir une forme d'imagination musicale que la musique est non pas tant de traduire, mais simplement qui l'anime et qui permet ensuite au travail de se mettre en route et de se mettre en œuvre, qui est le travail d'écriture. Ici, les choses sont encore en plus ambiguës, puisqu'il s'agit à la fois d'un travail d'écriture au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on écrit sur du papier ou sur de la bande magnétique, l'enfant du support, là c'est du papier, et un travail autour du discours improvisé qui est évidemment une des autres formes que revêt l'écriture pour moi.
Est-ce que vous faites un lien, vous le disiez tout à l'heure, vous avez donné un ensemble de titres totalement liés à des poètes. Est-ce que vous faites un lien justement également dans la construction de vos pièces, quand vous regardez, prenons le cas de René Char, est-ce que ça vous a inspiré? Le système de construction de René Char est très particulier. Est-ce que dans votre musique, il y a cet ingrédient?
Je souris parce que c'est la question que je craignais le plus.
Et elle arrive. C'est pour ça que je vous la pose.
Elle arrive déjà. Alors, oui, enfin, ce serait d'une extraordinaire prétention de dire qu'il y en a. Oui, enfin, il y a en tout cas une volonté de. Il y a un travail sur la. J'ai envie de dire sur la mémoire dans Char, qui est un travail sur la mémoire musicale aussi. Pour moi, c'est la rencontre entre la poétique de Char et. Et Pierre Boulez, par exemple, évidemment, qui ont été un couple tout à fait exceptionnel dans ce domaine, ne doit absolument rien au hasard. Et Boulez a beaucoup écrit sur la notion de mémoire en musique, c'est-à-dire ce qui est du domaine de la thématique, de la récurrence qui fait que le discours peut se dérouler, qu'il y a des relations de cause à effet qui s'introduisent, qui sont évidemment beaucoup plus mystérieuses que celles que la musique pourrait sécréter elle-même. Il y a dans Char cette sorte d'imbrication de la pensée sur elle-même, de la poésie sur elle-même, du mot sur lui-même, qui est archétypique de l'écriture de René Char. C'est un peu, encore une fois, je méfie beaucoup des mots là, un peu ce que j'ai souhaité faire. Il y a une imbrication évidemment de ce qui du domaine de l'ineffable d'une écriture instantanée, qui est ce qui peut se produire entre trois êtres qui improvisent dans le même temps, qui vivent donc le même temps musical, même temps d'une pensée partagée à trois, ce qui est déjà un mystère étonnant. Et puis comme une interprétation poétique commune, et puis celui de l'écrit. Mais en même temps, à l'intérieur des deux formes d'écriture, je dis bien écriture, puisque l'improvisé et l'écrit, pour moi, participent du même geste de la pensée pour un compositeur, il y a sans cesse un va-et-vient qui introduit des petits instants de mémoire qui passent de l'improvisé à l'écrit, de l'écrit à l'improvisé, et qui se véhicule entre les trois musiciens ici présents sur ce disque, donc Beniat Hatchari, le chanteur que tout le monde connaît, et Carlo Rizzo, qui est un tambouriniste qui joue tous les tambours sur cadre, et moi-même au piano, qui devient d'un seul coup un instrument beaucoup plus exotique. Et ce n'est pas un paradoxe que le tambourin ou les tambours sur cadre de Carlo Rizzo et la voix de Beniat Hatchari. J'ai curieusement la sensation, quand je travaille avec eux, que je m'assieds au piano, que l'instrument le plus exotique, c'est celui que je vais jouer.
Qui souvent est préparé.
Oui, il est préparé, mais il est préparé manuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses fixes, pas de préparation fixe à l'intérieur de l'instrument qui fait que ça conditionnerait un certain type de jeu. J'essaie de me donner la liberté de pouvoir intervenir à l'intérieur de l'instrument, d'en modifier le son, j'ai envie de dire autant que de besoin, au fur et à mesure que le discours se développe. Alors, il y a évidemment des choses qui sont un peu fixées dans l'écriture, qui fait que c'est à ce moment-là qu'il y a ce type de préparation manuelle qui intervient et pas un autre. Mais au demeurant, ce type de préparation peut constituer un élément acoustique, justement de mémoire, pour que l'auditeur puisse se repérer dans les discours, qui peut venir beaucoup plus tard dans le déroulement de la pièce, que ce soit dans un des fragments improvisés, à trois, ou bien dans un des fragments qui... fixé par l'écrit. Et du coup, ce type de son très particulier, alors on peut citer simplement des rapports entre la main et les cordes qui permettent de, ça c'est un grand classicisme aujourd'hui, sélectionner des harmoniques ou simplement de mettre en action la corde vibrante du piano autrement que par le clavier, mais ça n'est pas que ça, il y a aussi un travail à l'intérieur avec des baguettes que connaissent bien les percussionnistes, tout un jeu de baguettes dures, ou molle, comme on dit, ou morbido, comme on dit en italien, ce que j'aime beaucoup, baguette morbido, ça me plaît beaucoup. C'est pas parce qu'elles sont mortes ou que le jeu est morbide, c'est simplement qu'elles sont plus douces que les autres. Ou bien d'autres formes de baguettes, notamment fabriquées par mes soins, qui permettent de travailler des sonorités tout à fait curieuses, aussi bien sur les cordes, mais aussi sur le cadre en bois ou en métal du piano, ou même sur les étouffoirs du piano, pour avoir un jeu à la fois au clavier avec la main gauche et avec la main droite des percussions sur les étouffoirs qui noient complètement la perception acoustique et l'image qu'on a de cet instrument.
Char René d'Henri Fourès, une œuvre extraite de l'enregistrement Célébration du Contre-jour, un disque qui vient de paraître sur le label Signature France Musique. Henri Fourès est l'invité de ce tapage nocturne. Quand on vous écoute, on a l'impression que vous faites partie de cette école de pensée qui estime que la composition est une sorte d'improvisation fixée.
C'est encore là, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. C'est la deuxième question que je craignais le plus. Oui, je ne sais pas si j'appartiens à une école de pensée du tout. Je pense que pour beaucoup d'auteurs, de compositeurs, y compris de compositeurs dits du passé, 16e, 17e, 18e, la trace du geste improvisé est tellement évidente, et d'ailleurs l'analyse de l'œuvre peut le traduire très, très simplement, qu'on a cette sensation que ce qui est écrit ne traduit que finalement un geste improvisé. C'est-à-dire un savoir qui s'est accumulé par des essais, par une pratique libertaire par rapport à un instrument, que ce soit le piano, l'orgue, le clavecin ou tout autre instrument, et que finalement ce que la partition a fixé, c'est la décantation de l'ensemble de ces improvisations qui ont défini ou qui ont même dépassé les limites d'un discours tel que l'écriture la plus aventureuse aurait pu le fixer. Ça, je le crois très sincèrement. En même temps, je n'ai pas oublié, je suis le produit d'une culture très française, et non seulement je ne le renie pas, mais je trouve que c'est très bien que ça me soit arrivé. C'est-à-dire, j'ai fait comme tout le monde ces fameuses études d'écriture que l'étranger nous envie, à l'époque, au CNSM, qui était rue de Madrid. Je n'en ai pas que de mauvais souvenirs, au contraire, j'y ai appris beaucoup de choses, j'y ai appris presque un excès de rigueur, et je crois que c'est le mixage des deux pratiques qui a permis de développer cette forme de travail que j'essaie de mettre en avant aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a quand même un va-et-vient important entre ce que l'écrit peut générer comme rigueur presque un peu, j'ai envie de dire, outrepassée parfois, presque un peu démondé, mais ça ne me gêne pas du tout d'être démondé par rapport à ça, et ça ne me plaît pas non plus d'ailleurs. Donc c'est dans cet entre-deux que ça m'intéresse. Et puis ce qui est du domaine de la stratification d'expérience de gestes improvisés qui fait que peu à peu, c'est ce va-et-vient permanent entre ces deux gestes qui donne une sorte de sens à l'écriture, en tout cas à ce que je souhaite faire. Enfin, c'est, au-delà, je ne sais pas après comment les choses sont perçues.
Vous travaillez avec deux improvisateurs, en l'occurrence Benyel Hadjari et Carlo Rido, dont on a évoqué les noms à l'instant. Ça vous apporte quoi, vous, dans votre écriture, là, justement est-ce que leur part d'improvisation vous apporte une écriture nouvelle?
Il faut quand même, je dis, ça fait une vingtaine d'années que nous nous connaissons, que nous nous côtoyons. Ça ne veut pas dire que ça fait 20 ans que nous travaillons ensemble dans la continuité de toutes ces années, mais nous ne sommes jamais perdus de vue. Nous avons mené ensemble des expériences communes très hasardeuses, parfois complexes. Et là, il y a eu depuis 4-5 ans la volonté d'un retour à ce trio, c'est un retour à ce partage de pensée, de travail, qui fait que je pense que chacun de nous, par rapport à son destin personnel, envisage ce trio comme un laboratoire d'expérience personnelle. Et je suis persuadé que chacun en fait son miel d'une façon différente. C'est peut-être ça le vrai partage et qui fait que ce trio a un parfait équilibre dans la mesure où chacun, peu importe, on le prend comme on veut, en tout cas, disons, aucun n'essaie simplement d'en faire son seul laboratoire en instrumentalisant les deux autres. Et moi, j'en retire des bénéfices inouïs parce que par le travail arrivent des trouvailles que je collecte et que je note immédiatement parce qu'elles vont féconder une pensée qui passera par l'écrit. Et je suis persuadé, j'en suis non seulement persuadé, mais sûr que sans ce travail-là, il y a des tas de choses, y compris liées au phénomène acoustique, à ce qui peut se mettre en œuvre par ce imbroglio étrange entre un piano, une voix très, très particulière ou des techniques vocales très particulières et des tambours sur cadre qui intègrent à la fois des tambours comme le daf iranien ou darbuka ou le tambour sicilien traditionnel, etc. ou le kanjira indien, c'est-à-dire des choses qui appartiennent aussi à des cultures différentes. Je crois que le mixage de tout ça ne peut que servir de fondement à d'autres formes de pensée. C'est-à-dire, ça nourrit l'imagination, mais ça nourrit forcément l'écrit. Et c'est un peu comme ça que je vis ce trio. Je crois que c'est comme ça que nous le vivons tous les trois. C'est une des, à mon avis, des meilleures explications de l'existence de ce trio.
Cœur, cheveux, exige tout le les diacres, l'ours d'une percolateur de sang, le vide chante avec feu vers toi, triomphant par les cirques des grands messes, toi, la soif sur un corps sans eau. Tu détournes la tête d'absence et ton œil mis un peu sérieux à droite à gauche, afin de dormir contre la nuit.
Pesao Fernando, d'Henri Fourès, l'invité de ce tapage nocturne.
Parfois, on évoque la rencontre, la première rencontre de l'improvisation, qui est souvent la plus passionnante. Les improvisateurs parlent de cette petite étincelle qui existe lors de la première rencontre. Au bout de 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'usure, peut-être pas, mais en tout cas de trop connaître le travail de celui qui est en face?
C'est toujours la même histoire. C'est beaucoup plus simple de vivre avec une maîtresse de moi que de vivre avec la même femme 20 ans. C'est un peu la même chose, sauf là c'est un couple à trois, alors on devine que la situation est encore plus compliquée. J'ai envie de dire que paradoxalement, pour moi, elle est plus simple. Je crois que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, je crois que c'est toujours, je ne vais pas galvauder, je crois que c'est toujours la même découverte. Pourquoi ? Parce que nous ne nous voyons pas toutes les semaines. Nous travaillons parfois intensément, un mois ou deux mois. Il y a des conseils, il y a des échéances, des concerts, pardon, nous répétons ensemble, etc. Mais Carlo Rizzo évolue de son côté, tout seul, dans son univers, son cadre, les rencontres qu'il fait. Beniat El-Shehari, depuis 20 ans, sa voix, sa technique, sa curiosité, son imagination ont incroyablement évolué. Et j'ose espérer que la mienne aussi. Donc chaque fois que nous nous rencontrons, nous remettons en commun des expériences faites à d'autres endroits avec d'autres personnes. En fait, c'est le couple à trois parfaitement illégitime, où chacun respecte, non seulement respecte, mais a besoin de l'expérience individuelle de l'autre qui va se nourrir ailleurs, dans un ailleurs et pas uniquement dans ce travail du trio. C'est la seule façon pour expliquer ces 20 années de compagnonnage et le fait que nous nous surprenons toujours et encore. Je crois que ce disque est même pour nous le témoignage de l'émerveillement d'une grande surprise. Et pourtant, nous l'avons beaucoup porté, beaucoup travaillé. Et comme je disais entre nous tout à l'heure, c'est peut-être aussi un disque qui règle les comptes d'un certain nombre d'expériences. Enfin, en tout cas, régler les comptes au sens où ça fait un point. Nous faisons le point. Ouais.
Vous vous souvenez de la première fois ?
Je me souviens de la première fois, mais avec chacun d'eux, puisque la première fois, nous n'étions pas ensemble. J'ai d'abord rencontré Carlo Rizzo il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Il était encore dans la compagnie de Giovanna Marini et j'avais été immédiatement séduit. Je m'étais dit, il faut absolument que je rencontre ce garçon et qu'on puisse imaginer quelque chose ensemble. Le hasard a fait qu'il épouse une de mes amies, dont on voit bien qu'on est toujours dans des histoires de sens et de sensualité, d'où la caresse et d'où le contre-jour. Et puis Beniat El-Shehari, j'ai rencontré un tout petit peu plus tard, peut-être quelques années après à peine, et ça a été la même chose pour des raisons différentes. Ensuite, nous avions monté un projet à plusieurs qui s'appelait le Livre des Traditions, où il y avait 7 musiciens, dans lesquels il y avait évidemment Beniat El-Shehari, Carlo Rizzo, mais aussi des gens comme Jérôme Thomas, le jongleur, avec lequel j'ai monté en trio pendant plusieurs années. Tambourin, jonglage et piano, ça c'était encore une autre aventure. Jean-Paul Autain de l'Arfi, il y avait dans ce groupe Patrick Moutal qui jouait le sitar indien, etc. Donc on devine, et Andy Emler qui était le deuxième pianiste avec moi, donc on devine, c'était un groupe encore plus hétérogène, hétéroclite.
Henri Fourès, quand on regarde un tout petit peu de plus près les titres que vous avez donnés, il y en a un qui est un hommage à Stravinsky.
L'hommage à Stravinsky, c'est un hommage très simple, c'est un hommage complètement décalé, hein, c'est-à-dire tout à fait humoristique, sachant que l'humour est la chose la plus compliquée en musique. La musique se prête peu à ce recul.
Et très rare en musique d'aujourd'hui.
Très rare, sauf chez quelques auteurs. Tout le monde connaît les petites pièces pour piano de Stravinsky, évidemment. L'une d'elles m'a donné l'idée de cette valse qui n'en est pas vraiment une, c'est totalement évidemment un dansin. Ça m'a amusé de faire cela alors en duo avec Beniat El-Shehari qui lui improvise totalement la partie vocale alors que je joue moi au piano une partition totalement écrite. Alors cette sauce là c'est vraiment la mise en avant du paradoxe écrit improvisé qui fonctionne dans le même temps. C'est Beniat El-Shehari réagit sur la pièce de piano exactement comme un improvisateur pourrait le faire sur une bande magnétique. C'est-à-dire que l'œuvre est fixée sur une partition, enfin la pièce, et le chanteur, qui l'a tellement, à force de l'entendre et de travailler avec, qui se l'est tellement approprié, invente sa partie. Je dois dire que si je l'avais écrite, je pense que je ne serais jamais arrivé à écrire quelque chose d'aussi complexe et d'aussi finalement à la fois fusionnel et décalé par rapport à ce qui est proposé par l'écriture. D'où finalement le sens cette pièce à l'écoute, enfin que prend cette pièce à l'écoute, qui est tout à fait dans la logique de ce que je souhaitais écrire au départ, c'est-à-dire quelque chose de décalé, d'humoristique, et qui finalement est une forme de respect, témoignage de respect par rapport à la musique de Stravinsky, dont je suis évidemment un ardent admirateur.
Hommage à Stravinsky d'Henri Forest, extrait de l'enregistrement Célébration du contre-jour d'Henri Forest, l'invité de ce tapage nocturne. Thank you.
Quelle est la place de ce disque dans votre itinéraire musical ?
Pour tout dire, je ne la connais pas encore. Je crois que l'accueil qui lui sera fait sera un bon indicateur de cette place-là. Je ne suis pas si je suis le mieux armé pour pouvoir avoir le recul critique suffisant pour déterminer cette place. Je peux dire simplement que entre le concert de toutes les œuvres écrites de ces dernières années, il occupe une place qui n'est pas, elle par contre, décalée. Elle est tout à fait dans la logique de la continuité de mon travail. Alors peut-être que ceux qui l'écouteront penseront l'inverse. Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense que cet enregistrement peut donner une explication à l'esthétique qui est la mienne. Enfin, je ne sais pas si je peux dire esthétique, d'ailleurs, aux esthétiques, je défends, je ne pense pas être prisonnier d'une esthétique. Mais je crois que ce qu'on peut reconnaître, c'est un geste, une forme de vitalité, cette joie du rythme qui m'habite depuis longtemps, et le fait que je ne me préoccupe pas du tout des modes, et que ce qui m'intéresse, c'est aussi la vérité d'un instant. Je suis quelqu'un qui est très sensible au présent, comme quelque chose que je sens et quelque chose que j'ai envie de redonner. Alors, le présent dans les deux acceptations, c'est ce qui est vécu sur l'instant. C'est le rêve de toute écriture, de faire croire que finalement rien n'a été écrit. C'est en cela que la magie d'une écriture comme celle de Bach ou de Couperin, etc., agit. C'est-à-dire qu'on a la sensation que celui qui la joue est en train de l'improviser sur le clavier. Pourtant, il n'y a pas de chose de musique plus sophistiquée, plus écrite. Bien, c'est cette sensation du présent, mais le présent, c'est aussi ce que l'on donne. C'est à la fois ce que l'on vit et c'est à la fois ce qu'on donne. Si je fais la musique, je crois que c'est pour cela. C'est pour avoir cette acuité du présent que la vie nous donne avec une grande parcimonie. La phrase de Baudelaire qui s'adressait à un critique qu'il avait assommé, il lui dit « Monsieur, si j'ai vécu 3 minutes dans ma vie, j'aurais vécu 2 siècles de plus que vous », enfin quelque chose comme ça. Et bon, c'était des phrases magnifiques. Et en même temps, c'est une offrande. Hein, c'est ce que l'on donne à autrui, s'il a envie de le prendre, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a une pièce à l'intérieur de ce CD dont je veux parler. C'est un hommage à Jean Boyer, qui était, tout le monde le sait, organiste, qui était d'ailleurs professeur au CNSM de Lyon que je dirige, qui était un musicien tout à fait exceptionnel, un être humain rare. Et j'ai appris le décès de Jean le jour de l'enregistrement de la première pièce de ce disque. Et je me souviens que je n'ai eu de cesse que de dédier cette première pièce, qui d'ailleurs au départ n'avait pas de titre, ce qui montre bien qu'elle y était probablement destinée. Et donc ça s'appelle Déploration sur le nom de Jean Boyer. Et c'est une des pièces de ce CD. Jean Boyer n'était pas auteur ou écrivain, donc c'est la seule exception à ce disque, à l'intérieur de ce disque, puisque chacune des pièces porte le nom d'un auteur ou d'un écrivain. Et de mon point de vue, c'était un immense écrivain de musique et un immense auteur. Et je voulais lui rendre cet hommage.
Henri Forest, merci. À bientôt.
À bientôt. Je
L'exploration sur le nom de Jean Boyer d'Henri Forest, extrait de l'enregistrement Célébration du contre-jour, Henri Forest qui était l'invité de ce tapage nocturne. Et comme chaque semaine, nous retrouvons la chronique de Christian Zanesi. Christian Zanesi, vous devenez aujourd'hui avec une œuvre de Rodolfo Caesar dans le cadre de cette émission consacrée à Henri Forest.
Oui, absolument, parce que j'ai pensé lui faire plaisir en remuant un petit peu des souvenirs vieux de 30 ans avec Henri Forest. On est des amis vieux de 30 ans. Alors, je l'ai connu, Henri Forest, au Conservatoire de Paris, dans la classe de Pierre Schaeffer et Guy Rebelle. Et l'assistant de cette classe était un jeune Brésilien, terriblement sympathique, Rodolfo Caesar. Il nous aidait dans les différents travaux que l'on avait à faire, et ce faisant, il s'aidait lui-même, car il était à la fois assistant et étudiant de cette classe. C'est Guy Rebelle qui avait trouvé cette formule pour lui permettre d'avoir un peu d'argent et donc de vivre et de payer ses études à Paris. Alors on va écouter son étude de stage intitulée « Les deux saisons ». C'est une courte œuvre électronique qui n'a pas pris une ride. Je l'avais oublié en fait ce travail et quand je l'ai ressorti, j'écoutais ça, c'est vraiment formidable. Alors je pense que c'est vraiment l'œuvre d'un jeune homme enthousiaste et doué. Musique électronique car elle utilise le synthétiseur du studio des étudiants, c'était l'AKS, le modèle VCS3. Et avec lequel Rodolfo Caesar a construit des sons d'insectes, des sons d'oiseaux et d'animaux étranges. D'une certaine manière, c'était un retour dans sa forêt amazonienne, mais un retour transcendant. Il n'est pas question ici de paysage, mais de musique. Rodolfo Caesar, 1975, Les deux saisons.
Les deux saisons, une œuvre de Rodolfo Caesar de 1975. Place maintenant à Eric Servat.
Le musicien suisse Norbert Moslang est un adepte des musiques électro-acoustiques de l'extrême. C'est le label Cut, basé en Suisse et managé par Jason Kahn, qui a choisi d'éditer sur CD la bande-son d'une installation sonore et lumineuse réalisée à Feldkirch en Autriche en juin 2004. Sous le titre de Capture, l'album est une lente progression de sons générés par une série de tubes fluorescents et captés à l'aide de micro-contacts. Ces sons sont amplifiés et retraités, invitant les spectateurs et aujourd'hui les auditeurs à faire l'expérience d'une perception acoustique aussi intense qu'étrange. Voilà, c'est une sensation de vide très forte que nous laisse la fin de cette expérience sensorielle à l'écoute de cet album de Norbert Moslang, édité sur le label Cut. Sur le même label, je vous propose de découvrir un extrait du dernier album de Jason Kahn, une composition électroacoustique pour 6 musiciens intitulée Timelines, où l'on retrouve Norbert Moslang jouant d'instruments et d'objets aussi divers qu'inattendus, Thomas Korber à la guitare et à l'électronique, Günther Müller au mini-disque, à l'iPod et également aux traitements électroniques, Steinbrückel au laptop et Christian Weber à la contrebasse. Duncan, un extrait de son album Timelines, paru sur son propre label Cut Records. C'était la dernière sélection de ses chroniques discographiques hebdomadaires.
Ainsi s'achève cette émission. La technique était à Roland Agassen, chargé de réalisation Bruno Riemeyer, attaché de production Philippe Bourget. Place maintenant à Ouvert la nuit, Olivier Bernaget.